Il est 8h.
J'ai un petit truc quand même dans mon cœur qui est un peu triste parce que Paris, c'est un club forcément qui a vraiment compté pour moi. J'ai grandi là-bas.
Il a même bien grandi depuis son passage au centre de formation du PSG, le français Kingsley Coman. Il a suffi de son unique but pour que le rêve européen des Parisiens ne s'achève sur un réveil brutal, celui de l'expérience et de la solidité du Bayern. Que va tirer Paris de cette épopée inédite? L'investissement du Qatar, les stars Mbappé, Neymar qui rêvent d'Europe, voudront-ils tourner la page? Les premières questions dans ce journal. Le Covid-19 et le masque qui va devenir l'objet du quotidien le plus courant en France. Dans 8 jours à peine, ce sera obligatoire dans les entreprises, mais aussi les collèges et les lycées. Reportage à suivre, alors que le gouvernement retarde son plan de relance. Priorité justement à la pédagogie sur la crise sanitaire. Et puis, la sœur de Donald Trump, enregistrée à son insu alors qu'elle critiquait vertement son président de frère. Une affaire de famille puisque c'est la nièce qui avait caché le micro.
Juste après ce journal, l'invité politique de la matinale d'Europe 1, Elisabeth Borne, ministre du Travail, au micro de Sonia Mabrouk. Il est 8h02, très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Une défaite du plus petit score possible pour la plus grande des compétitions de clubs. En atteignant pour la première fois la finale de la Ligue des Champions, le PSG de 2020 avait déjà réussi à rêver plus grand, son slogan, mais a raté la dernière marche pour être vraiment magique.
Désillusion d'autant plus cruelle que le buteur de la soirée, Kingsley Coman, aujourd'hui au Bayern de Munich, a débuté sous les couleurs bleu et rouge du Paris Saint-Germain, Cyril de la Morinerie.
Kingsley Coman a terrassé son club formateur. Arrivé à l'âge de 9 ans au PSG, l'attaquant aux jambes de feu y a fait toutes ses gammes avant de faire ses valises d'abord en Italie à la Juventus de Turin, puis au Bayern Munich. Mais celui qui a déjoué la vigilance de son ancien ami du centre de formation du PSG, Presnel Kimpembe, n'a pas oublié ses années parisiennes.
J'ai un petit truc quand même dans mon cœur qui est un peu triste parce que Paris, c'est un club forcément qui a vraiment compté pour moi. J'ai grandi là-bas. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie et un petit peu de tristesse.
Kingsley Coman est le symbole de ce centre de formation du PSG qui n'arrive pas à conserver ses talents. Adrien Rabiot parti à Turin, mais aussi Dembélé à Lyon, Aouchiche à Saint-Etienne ou encore Tanguy Kouassi qui vient de signer au Bayern Munich, ce que déplore l'ancien président du PSG, Charles Villeneuve.
On ne soigne pas nos joyaux conformes parce qu'on a un centre de formation qui depuis quelques années fait partie des 20 meilleurs centres de formation d'Europe. C'est vrai pour Lyon, c'est vrai pour Rennes, mais au moins on les garde, on les exploite, on les met en lumière.
Une leçon pour le PSG. Kingsley Coman pourrait, s'il est épargné par les blessures, s'affirmer aussi un peu plus en équipe de France.
Et hier soir, le duo de stars parisiennes Kylian Mbappé et Neymar ont déçu, on peut le dire, se heurtant à un immense gardien, Manuel Neuer, inébranlable et expérimenté comme son équipe du Bayern.
Bonjour Jean-François Pérez.
Bonjour,
chef
à tous.
Du service des sports d'Europe 1. Avec vous, on se projette ce matin sur la suite pour le club et pour ceux qui le composent, avec d'abord celui qui a fait ses adieux hier soir, Thiago Silva.
Oui, Thiago Silva, c'est un monument de l'histoire du PSG qui va sans doute tirer sa révérence. Le monstre, comme on l'appelle, 8 ans qu'il porte le maillot parisien. C'était l'une des premières grosses prises des dirigeants qataris. Il symbolise à la fois la force et la faiblesse parisienne, celle d'une équipe qui surclasse ses adversaires français mais n'arrive pas à conquérir l'Europe. Thiago Silva aura bientôt 36 ans. C'est un homme et un joueur très attachant. Il était très ému d'ailleurs hier soir quand il a fait ses adieux. Mais attention tout de même au post-scriptum puisque ses dirigeants espéreraient en secret le retenir pour une dernière saison.
Le sort de l'entraîneur Thomas Tuchel est-il aussi lui en question après cette défaite en finale?
Bah écoutez, une image hier soir résume la situation. Le président du PSG qui enlace longuement les joueurs un à un, mais avec Tuchel, c'était glacial. L'entraîneur allemand restera celui qui a emmené le club en finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, avec à la clé cette saison un quadruplé national, il ne faut pas l'oublier, championnat et coupe. Mais il est là avant tout pour la Ligue des Champions. Alors les progrès sont là, finale, mais cela suffira-t-il? En coulisses, ses dirigeants se montrent très évasifs sur son avenir. Le sort de Thomas Tuchel ce matin est incertain.
Est-ce que l'encadrement, les patrons du PSG pourraient changer?
Alors le président Nasser Al-Khelaifi a tenté de masquer son immense déception hier soir, une de plus, très paternaliste avec ses joueurs, on l'a dit, notamment Neymar qui l'a longuement consolé, et très positif dans son discours d'après-match. Il a promis la victoire pour très bientôt dans cette Ligue des Champions, cette Ligue des Champions qui obsède l'émir du Qatar notamment depuis bientôt 10 ans. Pour le moment, Nasser semble protégé par la proximité avec la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar. Le PSG ne peut pas se permettre de ralentir. Leonardo, le directeur sportif, ne va pas échapper lui à une remise en question malgré des investissements colossaux. L'effectif, on l'a vu, reste déséquilibré en défense, au milieu. Les remplaçants du Bayern hier soir ont été plus forts et c'est un ancien joyau, on en parlait, de la formation parisienne, un titi, Kingsley Coman, qui a donné la victoire au Bayern. Stopper la fuite des talents, dessiner un Paris Saint-Germain plus français, c'est un chantier prioritaire.
Et Jean-François, côté finance, il n'y aura pas le jackpot de la victoire, mais ce parcours qui est tout de même assez rémunérateur.
Oui, le Paris Saint-Germain va récupérer beaucoup d'argent, plus de 120 millions d'euros, mais la crise du Covid lui aurait coûté autant. Alors cette saison, le club va être partagé entre son envie d'investir encore pour franchir cette dernière marche et puis la réalité économique actuelle, sans oublier le fair play financier qui limite sa marge de manœuvre. Donc a priori, pas question d'acheter l'équivalent de Neymar ou Mbappé. D'ailleurs, les deux superstars qui ont une grosse revanche à prendre devraient encore être parisiens la saison prochaine. C'était histoire de finir sur une bonne nouvelle pour les supporters. On retrouve le Paris Saint-Germain dès samedi soir à Lens. Retour à la réalité de la Ligue 1.
Merci Jean-François Pérez, chef du service des sports de la rédaction d'Europe.
Côté supporters, il y a eu des échauffourées hier soir aux abords du Parc des Princes, à l'intérieur duquel le match était retransmis sur écran géant devant 5000 personnes. Des tensions dans la soirée également dans le secteur des Champs-Élysées, vitrines brisées, voitures incendiées. La préfecture de police annonce ce matin avoir interpellé 148 personnes pour dégradation ou violence.
8h07 sur Europe 1. Avez-vous prévu, anticipé votre protocole de salutation avec les collègues de bureau à partir du 1er septembre, le masque devient obligatoire dans les entreprises, y compris dans les open space.
Le clin d'œil sera plus efficace que le sourire pour se saluer à distance. C'est déjà le cas dans certaines entreprises. Aurélien Fleureau s'est rendu pour Europe 1 dans une start-up de location de bateaux où la mesure est appliquée sans trop de difficultés.
Les salariés étaient même plutôt pour et proactifs en fait, dans le port du masque. Tout le monde le met au bureau, donc c'est plutôt bon signe.
Avec une petite centaine de salariés répartis dans plusieurs open space sur deux étages d'une péniche, Tiffaine Lévy, la responsable RH de Click & Boat, avait fait passer la consigne. Le port du masque est fortement recommandé. Pas d'obligation, mais tout le monde s'y est mis, à l'image de Lydia.
Dans le métro, on le met, on en sort, on l'enlève pour prendre un peu l'air. Et puis naturellement, dans les bureaux, c'est un endroit clos. Donc on va le garder, on est assis peut-être à un peu moins d'un mètre, même si on n'est pas collés les uns aux autres. Mais ça devient des gestes finalement qui deviennent naturels.
Naturels, mais forcément aussi un peu contraignants.
On est très heureux de l'enlever quand on rentre chez soi, de se nettoyer le visage aussi. Voilà, il y a des inconvénients aussi à porter le masque tous les jours, hein, faut pas se mentir.
Et l'apparition d'une nouvelle routine au travail, celle de la petite pause sans masque, comme l'explique Bastien.
Si on a vraiment besoin de souffler, on se met dans un espace loin des autres, on souffle, on le remet et puis voilà.
Depuis l'annonce de l'obligation du port du masque en open space, Bastien a reçu quelques coups de fil d'amis inquiets. Ces quelques semaines de retour d'expérience ont permis de les rassurer.
Le masque, il en sera question tout à l'heure. Hein. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Autre lieu où le protocole sanitaire est renforcé, dans 8 jours à peine, l'école.
Oui, tous les enseignants seront masqués, les élèves aussi à partir de 11 ans. Pourquoi 11 ans? On va l'entendre avec ce reportage de Johanna Chabas. Cette limite d'âge interroge certains parents.
On entend tout et son contraire. Et je ne sais pas en fait si je dois être rassurée ou inquiète.
Caroline est déjà sur le pont pour la rentrée de ses 4 garçons de la maternelle au collège. Autant d'enfants que de règles sanitaires différentes. Et elle ne comprend pas pourquoi les masques sont obligatoires seulement à partir de l'âge de 11 ans. Son aîné de 12 ans devra le porter, mais pas le petit frère de 10 ans.
Pour nous, ce sont deux enfants qui ont 2 ans d'écart et qu'on a toujours élevés ensemble. Je ne vois pas trop la différence entre les deux. Donc j'ai l'impression qu'il y en a un qui va être protégé et pas l'autre.
Et ce masque obligatoire énerve plus d'un parent depuis que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a déclaré qu'il était une fourniture comme les autres à la charge des familles. Marie a un collégien de 11 ans. Elle a prévu un stock de 6 masques lavables pour un budget de 10 euros.
Je ne sais pas si cette décision est vraiment équitable parce qu'il faut pouvoir se payer les masques, il faut pouvoir les entretenir. Je trouve dommage que l'État ne s'occupe pas de cette problématique-là au risque de finalement que les enfants ne les portent pas ou les jettent. Voilà.
Face aux nombreuses contestations, Jean-Michel Blanquer a déjà annoncé que le masque pourra être distribué gratuitement au cas par cas aux familles en grande difficulté.
Pour sa rentrée à lui, le gouvernement veut rester cette semaine à 100% mobilisé sur les aspects sanitaires de la crise.
D'où un report du traitement de choc économique qui devait être administré dès demain, Adrien Beck.
À l'heure où le plan de relance devait être présenté demain matin, se tiendra un conseil de défense consacré au coronavirus. Pourtant, tout était prêt jusqu'au dossier de presse à distribuer aux journalistes. Un report qui donne une impression de fébrilité, déplore un macroniste. On aurait pu être à l'offensive. Là, on sera sur la défensive, sur un sujet qu'on ne maîtrise pas, dit-il. Car face à une épidémie qui repart, la semaine sera sanitaire. Protocole à l'école, port du masque en entreprise, situation dans certains départements. Priorité à l'épidémie, Emmanuel Macron l'a décidé. Et puis l'exécutif s'est aussi rendu compte via des études d'opinion que les Français connaissaient à peine l'existence du plan de relance. On va donc pouvoir faire monter la sauce cette semaine, espère un ministre. Jean Castex sera par exemple devant le MEDEF mercredi. Pas sûr pour autant que la semaine prochaine soit plus propice à parler d'économie, déplore un conseiller. La situation sanitaire, dit-il, ne va pas subitement s'améliorer.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un tout petit instant, la famille Trump, le président, sa sœur, sa nièce et une affaire de micro caché qui fragilise le patron de la Maison Blanche.
Et puis, à cette heure-ci, ils font encore la grasse matinée. Les vacances ne sont pas finies pour tout le monde.
8h11, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h12 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Il va tenter de rattraper son retard dans la course électorale. Donald Trump, donné battu face à Joe Biden dans les sondages pour la présidentielle américaine du 3 novembre prochain, est la star cette semaine de la convention du parti républicain qui s'ouvre aujourd'hui.
Et ça commence plutôt mal pour le président sortant avec des propos très durs de sa propre sœur à son encontre. Le récit de Xavier Yvon aux États-Unis pour Europe 1.
Dans la famille Trump, je voudrais la sœur aînée du président, Marianne Trump Barry, 83 ans, ancienne juge fédérale, enregistrer à son insu, écouter ce qu'elle pense de son petit frère Donald à la Maison Blanche. Ces fichus tweets, ces mensonges, oh mon Dieu, dit-elle, exaspérée, je ne devrais pas parler aussi librement, mais tout ce manque de préparation. Marianne Trump sort même un juron en évoquant son frère. Tout ce qu'il fait, dit-elle, c'est pour plaire à sa base, et la sœur du président cite en exemple les séparations de familles de migrants à la frontière. Ces enregistrements publiés par le Washington Post sont l'œuvre d'une autre Trump, Marie, la nièce du président. Elle a sorti cet été un livre à charge contre sa famille qui a créé, selon elle, l'homme le plus dangereux du monde. Et pour l'écrire, elle s'est servie de ses conversations avec donc sa tante Marianne, la grande sœur de Donald, qui dit également de lui qu'il est cruel, qu'il ne lit jamais et qu'il a triché pour rentrer à l'université. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
C'est aujourd'hui la rentrée d'Europe 1, tous les chroniqueurs, les grandes voix, les nouveautés aussi, vous les découvrez, mais vous nous écoutez peut-être encore en vacances.
Après tout, nous ne sommes toujours qu'au mois d'août et il n'est pas interdit de se faire plaisir jusqu'au bout de l'été. La preuve entre Avignon et Marseille où s'est rendue Caroline Baudry.
Perché sur un grand rocher, Hugo s'élance dans le vide.
Ça fait du bien, l'eau elle est bien fraîche. On profite au max, hein, on a pas ça à Paris nous. Il y en a, ils vont écouter ça dans le métro, ça va faire mal un peu, hein, mais bon, dans les bouchons surtout. Sur la 86.
Car la rentrée est encore loin pour cet étudiant parisien en séjour à Marseille. Comme Pascal et Daniel, basket à la main, eux cherchent le spot idéal entre les rochers aiguisés.
On a l'impression de ne plus être dans Marseille même et de se retrouver dans un lieu genre vraiment idyllique.
Et on est entre plusieurs collines, du coup c'est ciel bleu, des couleurs jaune et vert.
Il n'y a pas grand monde. Je suis assez satisfait de notre choix d'être parti comme ça fin août.
Des vacances en décalé pour repousser la rentrée et pas pressé de retrouver son bureau, la proximité avec ses collègues. Ce Lyonnais opte pour le télétravail depuis le sud pour prolonger de quelques jours son été. Marseille, Caroline Baudry, Europe 1.
Les Calanques, ça fait un peu plus rêver que la 86, effectivement, de bon matin.
Mais on est bien ici, non ? Il fait plutôt bon, on a repris, tout en douceur. Vous allez bien, François Geffrier ?
Parfaitement, vous êtes insolemment bronzé, Mathieu.
Ravi de vous retrouver, ça sera ma réponse langue de bois. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année au journal de 8h, François Geffrier. 8h15 sur Europe 1.